Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Hey Félix, j'ai une question quiz pour toi.
Allez.
Alors, quand on demande à Justin Trudeau, est-ce qu'il y a un génocide en Chine, qu'est-ce qu'il répond? Veux-tu entendre sa réponse?
Oui, j'aimerais.
Il s'abstient.
Voilà.
Il s'abstient. Effectivement. J'ai bien vu ça.
Un génocide en Chine? Ben non, voyons. Donc, les Ouïghours sont tellement bien traités. Incroyable.
C'est ça. Les Ouïghours sont-ils des citoyens de première classe? Y a-t-il eu un coup d'État au Myanmar? Toutes ces réponses bien évidentes ne semblent pas effectivement se rendre.
Non, jusqu'au cabinet du premier ministre. Et ça, c'est toute une nouvelle ce matin. Il y a deux firmes d'architectes qui ont claqué la porte du projet du REM.
Ben, je trouve, en fait, je trouvais ça important de t'en parler pour deux raisons. D'abord parce que c'est diffusé par notre bureau d'enquête, hein, dont je fais partie, oui, dans le journal de Montréal. Puis l'autre, ben, c'est que c'est mon boss qui l'a écrite. Alors, tu sais, cette nouvelle-là, alors je me dis que absolument qu'il faut que je t'en parle. Non, ça, je fais un petit clin d'œil à Jean-Louis Fortin, mais Jean-Louis là, nous annonce ce matin quelque chose d'assez important parce que tu sais que la phase 2 du REM, le réseau express métropolitain, qui va aller de l'est vers l'est de Montréal, ben suscite beaucoup de débats parce que il y a des hauts piliers que l'on a dessinés qui vont passer en plein boulevard René Lévesque, hein. Tu te rappelles de ça? Cet été, on a commencé à en parler. Ben oui. Et ça risque de défigurer complètement cette portion du quartier de Montréal.
Quelle excellente idée.
Hein? Ben c'est ça, hein. Les modélisations là de ces nouveaux piliers qui seront énormes, ma foi, ne font pas l'affaire, pense-t-on, des citoyens, mais même pas à l'intérieur de CDPQ Infra, c'est-à-dire la filiale de la Caisse de dépôt qui gère le projet. Ceux qui sont chargés, qui ont été retenus pour réaliser, si tu veux, ce qu'on appelle la signature architecturale de la phase 2 de ce REM, viennent de démissionner, a appris Jean-Louis Fortin. Les firmes étaient Daou, Le Stage, Lisotte Stecker et STGM. Alors, c'est un divorce à l'amiable, mais c'est un divorce quand même. Et Jean-Louis est très précis, là. C'est spécifiquement la portion aérienne prévue entre la gare centrale et la rue Notre-Dame sur René Lévesque qui a mené au divorce. Je cite son texte. Il dit qu'il y a eu des discussions qui étaient bien sûr frappées, ça c'est normal, par une entente assez stricte de confidentialité, mais les positions entre les architectes puis les développeurs du projet, puis les maîtres d'œuvre, puis les donneurs d'ouvrage étaient irréconciliables. Alors voilà que des architectes qui quittent et claquent presque la porte.
Écoute, c'est toute une nouvelle. Ça va être lettre, mon gars. Ça va être lettre quand ça va être construit. Ça va être incroyable.
Effectivement.
Alors, le récit de la quarantaine obligatoire de Hugo Duchesne.
C'est bon, hein, quand
ben
même.
Oui, ben oui.
T'as commencé à m'en parler hier, puis je sais pas ce qui s'est passé, je ne l'avais pas, j'avais pas vu son texte, puis là, force est de constater que mon collègue Hugo Duchesne a effectué sa quarantaine obligatoire à l'hôtel à son retour d'un voyage, donc aux États-Unis pour le travail, là. Il est allé à Miami. Il est revenu, il est passé, si je me fie à son texte, par Atlanta d'ailleurs, pour revenir. Puis si on y va chronologiquement, ben il décrit d'abord les aéroports américains c'est presque le retour à la normale. Les commerces, tout est ouvert dans les aéroports, dans les aérogares, les files, même si on suggère la distanciation sociale, tout le monde s'entasse un peu.
Aux États-Unis, ça, dans les aéroports. Ben écoute, ils ont rien que 500 000 morts.
Ben tu vois, alors tu vois pas. Moi c'était très différent, hein, de quand j'y suis allé une fois en temps de pandémie aux États-Unis, puis deux fois une fois en Europe, une fois aux États-Unis, puis une fois à Vancouver en temps de pandémie. Je veux dire, il y avait pas grand-chose d'ouvert. Alors là, il semble que c'est signe d'un retour à la normale pour eux. Mais bon, tu sais qu'en fin de semaine, puis c'est ça qui est intéressant de comparer, ça a pris juste 2 heures à Hugo Duchesne, à son arrivée à Montréal-Trudeau, puis il est arrivé hier, pour passer de la porte de l'avion à la porte de sa chambre, pas de surveillance serrée. Il a commencé sa quarantaine. Il y avait évidemment pas d'attente à l'aéroport Montréal-Trudeau. Il y avait seulement une quinzaine de passagers qui étaient présents dans l'avion qui l'amenaient. Puis c'est drôle parce que le journal a tenté de faire les mêmes démarches pour réserver une chambre, le Journal de Montréal, en fin de semaine. Ça a pris 15 heures. Hugo, lui, ça a pris 2 heures. Donc, tu vois, c'est comme assez aléatoire. Tu sais pas vraiment à quoi t'en tiens.
Oui, puis c'est ça a l'air, tu sais, c'est pas très surveillé. Hein. En Australie, par Nouvelle-Zélande, je reviens là-dessus. Là, quand tu mets le pied à l'extérieur de l'avion, t'es escorté jusqu'à ton hôtel. Là. Tandis que là, ben, tu peux presque prendre la poudre de scampette.
Oui, parce que mais même les employés le disent là. Tu sais, c'est pas eux qui vont venir vérifier, c'est pas eux qui vont t'attraper si tu t'en vas là. Ils vont appeler la police, mais tu sais, Hugo a constaté que c'est assez faible la surveillance qui est exercée. Il y a quelqu'un, exemple, qui avait oublié sa voiture à l'aéroport. Ben il a pu la reprendre pour se rendre à son hôtel sans aucune escorte.
Puis tu peux arrêter faire des achats puis contaminer un petit peu de monde autour avant de rentrer à l'hôtel. Il y a aucun maudit problème.
Rien qui ne l'empêche. Ouais, alors. Ouais. Hugo a rencontré un gars qui revenait de la Côte d'Ivoire en Afrique, puis tu sais, il dit, il était pas capable de réserver avec la ligne téléphonique. À l'aéroport, on l'a dirigé vaguement vers un hôtel, puis là, boum, il arrive à la réception, puis il dit, ça y est, bonjour, je vais bien faire une quarantaine. Alors, ça a l'air un peu compliqué tout ça. Heureusement, écoute, la bouffe a l'air pas pire, mais au prix que ça coûte, tu te dis, peut-être, tant mieux. Si vous vous demandez combien ça coûte à Hugo, ça a coûté 1200, hein, faire sa quarantaine.
Mais tu sais, quand tu demandes aux gens, c'est quand même un certain sacrifice. Tu sais, quand tu reviens, tu es en quarantaine forcée, c'est toi qui paye pour. Tu sais, déjà, tu demandes un certain sacrifice pour pas que ça chiale, il faut que ça roule, il faut que ça baigne, il faut que ça fonctionne au millimètre près, au quart de tour. Ben non, c'est tout croche.
Mais on se demande, d'ailleurs, j'écoutais hier soir la CBC et il y avait un panel politique là au bulletin de fin de soirée qui se posait cette question, les tergiversations du gouvernement fédéral et le temps que ça a pris avant d'instaurer des mesures plus strictes aux frontières, sont-elles arrivées, au fond, beaucoup trop tard? Parce que... On voit dans l'infectiologie, si tu veux, la baisse des cas. On comprend que c'est des mesures pour dissuader, décourager, et ça fonctionne. Les gens de voyager, mais est-ce que ça arrive un peu trop tard? Et est-ce que tout ça, c'est un peu trop complexe pour rien? C'est pas pour rien qu'il y a une poursuite qui a été déposée.
Ben oui. Contre la quarantaine obligatoire, ça va se ramasser
surtout
devant...
Surtout pour la réunification des familles, en fait. Okay. Là, c'est ça qui est en filigrane de cette poursuite-là. C'est pour la réunification des familles. Il semble y avoir des mesures dans cette quarantaine qui priment certains droits et libertés. On verra bien ce que la Cour en pense, parce que tu te rappelles que la Cour a déjà statué sur le couvre-feu, hein, qu'il n'y avait rien d'inconstitutionnel à limiter les déplacements des Québécois et des Canadiens, si toutefois il y avait à avoir des couvre-feux là ailleurs.
Écoute, on a tous besoin de sourire un peu, alors fais-nous rire, le fait divers le plus drôle depuis le début de l'année.
Je sais pas comment toi t'as perçu ça, ce fait divers-là. Moi, je l'ai trouvé vraiment hilarant. Je n'ai jamais lu quelque chose depuis le début de 2021 aussi drôle. Alors, c'est Maxime Delan qui a le don, d'ailleurs, d'apprendre des histoires plutôt hilarantes. Il y a eu un rassemblement illégal en Outaouais qui a été finalement dévoilé au grand public en raison d'un inconnu flambant nu qui s'est jeté dans un spa. Je te raconte. Il y avait, ça se passe à La Pêche, c'est au nord de Gatineau. Il y avait une dizaine de jeunes gens qui provenaient de l'Ontario qui faisaient la fête dans un chalet qui, on ne sait pas s'ils étaient propriétaires ou s'ils l'avaient loué, là, mais en tout cas, ils étaient dans un chalet en Outaouais, donc juste de l'autre côté de leur frontière provinciale. Et là, à un moment donné, ils voient les policiers qui arrivent pour mettre frein à leur rassemblement illégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, on peut dire que les policiers ont eu la puce à l'oreille quand un homme les a contactés après avoir mangé une maudite bonne volée. Alors cet homme-là, voici ce qui s'est passé, voici la raison pour laquelle il a mangé une volée, c'est que il a décidé de faire irruption, si tu veux, peu avant 2 heures du matin, dans le party. Les gens du chalet ne le connaissaient pas du tout. On ne savait pas c'était qui. Et là, il s'est dit, parfait, il dit, moi, je me déshabille, tu sais, je vais aller dans le spa. Puis, il y avait des gens dans le spa, puis il y avait des jeunes filles, puis tout le monde fêtait. Puis il dit, ça y est, moi, j'y vais. Alors, je m'avais fait en bandit, je m'en vais dans le spa. Eux autres, ils se sont dit, mais voyons, ça marche pas pendant votant. Ils voulaient pas s'en aller. Alors, ils lui ont sacré la volée. Alors là, à un moment donné, il est parti, mais il était blessé. Alors, tu sais, finalement, ben, il est blessé, il contacte la police. La police dit qu'est-ce qui est arrivé. Et là, elle capte un suspect.
Ben oui, je suis allé dans un party. Le gars, il a craché un party, comme on dit. Là. Il était tout nu, mais j'espère qu'il avait son masque.
Ben, en tout cas, l'histoire te dira que les policiers, ce qu'ils ont fait, ben c'est ce qu'ils devaient faire. T'sais. Ils sont rendus finalement où le gars avait été tabassé. Puis ils ont réalisé qu'il y avait une fête, puis que c'était complètement illégal, cette affaire-là. 9 personnes, 6 femmes, 3 hommes, âgés entre 19 et 29 ans, chacun des amendes de 1 500 pour ne pas avoir respecté, entre
autres. Tout ça parce qu'il y a un nuvite qui a craché leur party. J'espère qu'il avait son masque autour des hanches, à la hauteur des hanches, j'espère. Écoute, en terminant, tu veux nous parler d'une nomination à l'Organisation internationale de la francophonie.
Oui, écoute, mon collègue Alexandre Robitaille, dans le journal, vous pouvez le lire ce matin, là, il suit ce qui se passe à l'OIF là, de manière extrêmement fidèle. Alors, c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine, Alex, des nouvelles qui ont fait en sorte que Michael Jean s'est fait égommer, au fond. Alors, ce qu'il nous apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a un apparatchik, si tu veux, libéral, qui vient d'être nommé numéro 2 à l'OIF. C'est l'ancien chef de cabinet d'une ministre fédérale qui s'appelle Geoffroy Montpetit. Alors, il va succéder là à Catherine Canot, qui avait quitté son poste à l'automne dernier. Il a été directeur du... Il est actuellement directeur du cabinet de la ministre fédérale du Développement international, Carina Gould. Alors, je voulais te dire ce qui se passe dans cette organisation-là, dont plusieurs osent dire que...
Est-ce que c'est une nomination politique parce que quoi? C'est un chum du parti ou...
Ben, ça reste toujours dans les filières politiques, l'OIF, parce que c'est une organisation qui fait de la politique, au fond. Alors, simplement, puis je voulais peut-être, en terminant, te parler d'une nouvelle série de crimes et justice. On en parle souvent, hein, de ce qu'on a vu, de
ben
ce qu'on
oui,
a visionné.
Ben oui.
Aux gens qui nous écoutent, je te suggère fortement d'aller regarder un documentaire en 4 parties, je pense, sur le Cecil Hotel.
Écoute, donc, mes filles ne cessent de me parler de ça. Mes 2 filles, 21, 25 ans, ils l'ont vu. Papa, il faut que tu regardes ça, c'est incroyable. Donc, une fille qui est comme morte dans les réservoirs d'eau de cet hôtel-là, qui était un hôtel mal famé, mal fréquenté.
Oui, c'est un hôtel du quartier Skid Row à Los Angeles. Tu sais, Skid Row, c'est populaire et ou impopulaire depuis des années parce que c'est là qu'on y trouve une large population d'itinérants, de gens qui ont de graves problèmes de santé mentale, qu'une vente de drogue à ciel ouvert. Bref, c'est le genre de rue Hastings à Vancouver, mais à Los Angeles, c'est bien pire même. Et il y a un hôtel là, assez délabré, ma foi, qui s'appelle The Cecil Hotel, l'hôtel Cecil, qui a une triste réputation parce que plusieurs personnes y sont victimes d'overdose, de passage à tabac, de suicide et de meurtre. Et l'histoire raconte celle d'une jeune Canadienne de Vancouver aux prises avec un trouble bipolaire qui se rend visiter L.A. Elle ne sait pas où elle réserve sa chambre et finalement, elle réserve à cet hôtel. Et moi, je sais pas où j'étais au cours de ces dernières années quand on a parlé de tout ça, mais il y a une fameuse image d'elle lorsqu'elle monte dans l'ascenseur en revenant de sa soirée où on la voit, elle semble possédée par un genre de force.
Oui, elle allait vraiment pas bien et finalement, elle est morte supposément dans le réservoir d'eau et les gens c'est en goûtant l'eau que l'eau était bizarre, goûtait bizarre et finalement, ils ont trouvé son cadavre, je crois dans le réservoir.
Exact. Alors, on va vous apprendre aussi tout ce qui tourne autour de cette affaire-là dans ce docu très intéressant, mais surtout très bien réalisé.
On va regarder ça en 4 épisodes. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. On se reparle demain.